Europe 1, Philippe Googler.
Et nous sommes à la découverte de l'Aveyron jusqu'à 17h sur Europe 1, avant de partir en Mongolie tout à l'heure de 17 à 18. Et Nathalie Elal, vous êtes penchée sur l'histoire sans doute du couteau le plus célèbre de France, voire du monde.
Oui, parce qu'il est né dans l'Aveyron, ce couteau à Laguiole, exactement. Alors ouais. Laguiole, c'est un petit village de montagne.
Laguiole ou Laguiole ?
Laguiole.
Laguiole. Laguiole. Alors on
excusez-moi, oui, je pose des questions.
Je crois qu'aujourd'hui c'est petit cours de prononciation.
C'est sa fête.
Mick Jagger.
Bon, je prends note.
Bon, en tout cas, on reconnaît immédiatement ce couteau parce que son ressort est orné d'une abeille.
Ouais. Et pourquoi une abeille ?
Alors, la légende raconte que Napoléon Ier avait autorisé les habitants de la ville de Laguiole à porter ce blason en signe de reconnaissance de leur bravoure. Mais il y a aussi, je vous rassure, une autre explication qui serait une déformation de langage. Parce que, en Languedoc, abeilla signifie abeille. Et c'est un mot proche phonétiquement du lobéro qui désigne une virole d'assemblage des couteaux. C'est un petit peu
une
technique. Une virole d'assemblage, une façon d'assembler le couteau. Bon, vous n'êtes pas dans la coutellerie, pas encore.
Je me fais encore engueuler là.
Oui.
Si je commence.
Moi, je n'ai pas une forge, mais je peux vous dire qu'il y a une virole d'assemblage pour les couteaux. Alors, l'abeille, elle est apparue tardivement, mais certains vieux laïoles, paraît-il, comportent un visage ou un trèfle à quatre feuilles, ouais, ou encore une coquille Saint-Jacques en référence au chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui traverse l'Aubrac.
D'accord.
Et alors, attendez, pardon, mais il est très important de rappeler qu'ils ont récupéré leur nom. Parce que laïole, ça se fera bien. À un moment donné, ça partait dans tous les sens. En Chine et tout ça, ils
c'est
ont
pas protégé.
Protégé
ouais, exactement.
Non, c'est laïole, c'est là.
Ouais. Bonne intervention.
Mais c'est aussi fabriqué à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, pas seulement à Laguiole. Hein.
Vous êtes venu pour m'énerver, là, c'est ça?
Je vous laisse.
J'aime bien l'exactitude des données.
C'était le duel Jean-Marie Perrier, Nathalie.
Un partout.
Et donc, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Laguiole?
Alors, sous contrôle de Jean-Marie, il est né d'un mélange de deux modèles, le capuchadou et le navaja. Alors, le capuchadou, qu'est-ce que c'était? Mais c'était un couteau qu'on utilise en Aveyron, avec une lame fixe et une pointue emmanchée sur un morceau de bois, tandis que le navaja, c'était un couteau de poche pliant avec un cran d'arrêt que les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle auraient rapporté d'Espagne. C'est cela?
Oui,
ça
oui,
vous va
peut-être.
En tout cas, le premier coutelier à en fabriquer à Laguiole dans sa forge, c'est un certain Casimir Moulin en 1828. Et le Laguiole, il a évolué en fonction des besoins des populations. Par exemple, vers 1840, c'est l'apparition d'un poinçon, écoutez-moi bien, c'est barbare, mais pas tant que ça, qui servait à percer la panse des herbivores gonflés d'avoir mangé trop d'herbes tendres, ce qu'on appelle la météorisation.
Qui peut être mortelle pour les
Absolument.
Moutons.
Absolument, je vous explique, quand les vaches ou les moutons mangent trop d'herbes, ouais, bah ça fait une accumulation de gaz dans la panse, ils peuvent mourir parce que sinon il y a une asphyxie de l'animal, ça va comprimer les poumons. Et autrefois, eh bien, les bergers avaient un couteau long et fin qu'on appelait un trocar, ils perçaient comme ça la panse de l'animal.
Oh, c'est après, vif.
Mais j'imagine que ça leur sauvait la vie.
Mais t'inquiète pas, c'est pas près d'arriver cette année. Hein.
Ouais, ça peut arriver que l'aligot, il paraît.
Avec la sécheresse, je veux dire que c'est dur là.
Et puis il y a eu ensuite, en 1880, l'apparition du tire-bouchon sur le Laguiole, alors réclamé justement par les garçons de café aveyronnais, partis travailler à Paris. Hein, toujours, on revient à notre limonade qu'on évoquait tout à l'heure, merci. Alors il y a aussi la croix des bergers, hein, le symbole en miniature de la Sainte Croix sur le manche, parce qu'on plantait le Laguiole dans le pin, et ça jouait un rôle pour la prière de ceux qui partaient pour plusieurs mois en transhumance avec leurs troupeaux loin des lieux de culte.
D'accord. Et ils sont donc fabriqués ?
Eh bien, généralement, je vais énerver Jean-Marie, donc à Thiers dans le Puy-de-Dôme ou à Laguiole.
Je me casse.
Oh non, pas tout de suite. J'ai encore besoin de
c'est
vous.
C'est une façon de dire qu'il se soumet, Nathalie, vous devriez.
Je suis soumis.
Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marie, avec cette tradition ? Le connaisseur, en refermant son couteau, évitera soigneusement de faire claquer la lame pour ne pas abîmer le fil, ni endommager le ressort. Et comme ça, il va respecter le proverbe aveyronnais, ressort silencieux vivra vieux. Vous connaissez ?
Non.
Eh ben voilà, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, le patriarche était le seul autorisé à faire claquer la lame afin de demander à la famille de débarrasser la table. Donc si vous entendez ce petit bruit de claquement, vous débarrassez la table.
Ah, d'accord.
C'est comme ça que ça se passe chez moi, mais j'ai pas de Laguiole.
C'est bien.
Eh ben,
on apprend des tas de trucs, hein. C'est super. Merci Nathalie. Vous avez un grand homme que vous aviez gardé en magasin.
Oui.
Alors c'est Aveyronnais.
Alors c'est la petite histoire d'un grand homme au sens propre du terme. C'est l'histoire du géant aveyronnais Henri Cotte. 2,30 m, 160 kg, pointure 62.
2m30.
2m30. Si, si, c'est comme ça, une anomalie génétique probablement. Ses bras ouverts mesuraient 2m33 d'une main à l'autre. Le plus grand homme de France, un recordman. Alors, il naît le 30 janvier 1883. C'est le rejeton d'une famille paysanne de 6 enfants au hameau du Cro, une petite commune de Mounès-Proencou. Il pèse 8 kilos à la naissance, donc on le baptise immédiatement parce qu'il survit.
Bon, 8 kilos à la naissance.
Oui, absolument. On pensait qu'il ne survivrait pas.
Mais comment elle a fait la maman?
Bah, on ne sait pas surtout qu'elle, elle mesurait 1m56, vous imaginez?
Non.
Ah bah si. Et le père 1m53. Bah si.
Mais il a retourné, le pauvre.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été baptisé, mais il a réussi quand même à survivre. Il grandit, c'est le cas de le dire. Il devient apprenti chez un cordonnier. Puis ensuite, il est convoqué. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait les conseils de révision pour les gens qui devaient faire le service militaire pour devenir conscrit. Et là, il est repéré littéralement par la presse. La presse va s'intéresser à lui. Ça devient une attraction. Les journaux vont raconter, par exemple, ses menus, son appétit d'ogre. Par exemple, il engloutissait une douzaine d'œufs pour le petit déjeuner et pour le déjeuner, 4 kilos de viande et 3 kilos de pain. Je sens qu'Olivier est déjà sur le bord de la route.
Oui, là, j'ai jamais réussi à suivre. J'abandonne.
Incroyable.
Donc, il abandonne son métier de cordonnier parce qu'un impresario qui travaille pour les cirques Barnum vient lui faire miroiter que devenir un phénomène de foire est quand même plus rentable que réparer les godasses. Bon, et puis en quelques semaines, bah, il devient le géant le plus parfait, le plus beau et le plus impressionnant à voir. Je vois harangue la foule, là, comme faisaient les forains dans le temps. Bah oui, il devient vraiment l'attraction de toutes les foires régionales. Il va s'exhiber partout. Le public paie pour se faire photographier à ses côtés. C'était pas encore le selfie, mais presque. Et sa renommée grandit. Il va voyager absolument partout. Il traverse la Méditerranée. Il va aller en Angleterre, au Canada, partout. On va même essayer d'ailleurs en Angleterre de lui trouver une épouse à sa taille. Mais peine perdue, on n'a rien trouvé. En tout cas, sa vie, il va la passer tout entière en tournée, beaucoup donc en Angleterre et aux États-Unis. Vous savez que les anglo-saxons ont une prédilection pour ce qu'on appelle les monstres de foire. Alors il va être transformé aussi. Son impresario décide de le rebaptiser Joseph Dussorc. Il lui fait pousser une barbe, endosser...
Pourquoi Joseph Dussorc?
En fait, c'est l'anagramme de Ducrot, qui est son hameau d'origine dans l'Aveyron. Ah. Il lui fait pousser une barbe, endosser une tenue de tambour-major avec un immense chapeau de 36 cm pour qu'il devienne encore plus grand. Il va mesurer 2,63 m grâce au chapeau.
Lui, j'ai l'impression que ça va finir mal.
Vous savez que j'ai une passion pour les histoires qui finissent mal. Alors effectivement, le pauvre homme est épuisé par le rythme intensif de ses voyages. Il a aussi des problèmes de colonne vertébrale et d'articulation. Et là, il y a quand même deux versions un peu troubles. Soit, eh bien, il serait mort de sa belle mort, enfin épuisé par cette vie un peu particulière, soit carrément assassiné, parce que c'était un noctambule. Il adorait sortir en boîte de nuit. Donc, il serait mort à Lyon, assassiné pour un problème, une dispute d'argent dans un cabaret qu'il fréquentait à Lyon.
Non, mais il était peut-être grande partout aussi, hein. On l'appelait la théière à Trois-Biers, peut-être.
L'inverse de Toulouse-Lautrec qu'on appelait la cafetière, lui.
Très bien, écoutez, je vous laisse entre spécialistes.
Dans la série Pourquoi Ronsard
et pas moi, pas qu'on irait vers un concours.
Il est désopilant, ce Jean-Marie.
Merci Nathalie pour cette histoire passionnante et étayée. A tout de suite sur Europe 1 avec les bons plats de l'Aveyron et Olivier Pouls de retour parmi nous. Et on va être sage. A tout de suite.